Et par actualité. Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités du 2 octobre 2017. Hélène Denis avec vous. En manchette aujourd'hui, appel à l'aide des profs de maternelle. La ressource lance sa campagne de financement. 15 mois de prison pour le vol des vélos d'une cycliste paralympique. Les Jeux Invictus atteignent de nouveaux sommets. Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée nationale des aînés. Et en entrevue, j'aurai le plaisir d'accueillir Thomas Bastien, directeur de l'éducation et du mieux-être au Musée des beaux-arts de Montréal, qui viendra nous parler d'une plateforme nommée Éducar. Et aussi Jérôme Bobin, directeur de Handicap International Canada. Appel à l'aide des profs de maternelle, tiré de la presse.ca, un texte de Patricia Cloutier. Parce que l'enfant est trop jeune et que son problème pourrait se résoudre de lui-même, parce que son diagnostic n'est pas reconnu, parce que l'école n'a pas d'argent, telles sont les principales raisons invoquées pour expliquer que les petits de 4 et 5 ans n'aient pas accès à des services professionnels en classe, selon leurs enseignants. Ceux-ci réclament de l'aide de façon urgente. Il faut envisager un sérieux coup de barre, c'est beau les principes, mais il faudrait que le dépistage précoce des difficultés en bas âge, ça devienne du concret, lance Sylvie Théberge, vice-présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Le syndicat a réalisé ces derniers mois un sondage auprès de plus de 1000 enseignants et enseignantes, la grande majorité sont des femmes, afin de soupeser le poids des récriminations entendues. Les constats sont presque unanimes. Ces profs n'arrivent pas à gérer leur classe qui comprend un maximum de 19 élèves sans avoir l'impression d'aller au plus urgent. Quitte à laisser tomber d'autres élèves qui fonctionnent mieux, c'est un cri du cœur qui est lancé. Un appel à l'aide, constate Mme Théberge. À l'heure actuelle, le ministère de l'Éducation n'émet pas de code de difficulté pour les enfants de maternelle, même si ceux-ci ont été diagnostiqués autistes ou handicapés en bas âge. Et sans ce code, qui peut être demandé seulement à partir de la première année du primaire, il n'y a aucune aide financière qui est rattachée directement à l'enfant. La politique sur la réussite éducative lancée en juin dernier par le gouvernement Couillard prévoit que la façon d'aider les élèves handicapés en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage doit être réformée. Ce qu'on constate, c'est la lenteur du processus, déplore Mme Théberge. Au dernier budget, le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, a annoncé l'embauche de 1 500 nouvelles ressources dans les écoles afin d'aider surtout les plus jeunes. Nos enseignantes nous disent que c'est vraiment une goutte dans l'océan, étant donné l'étendue des besoins. C'est l'équivalent d'avoir de l'aide une journée par semaine, par école ou préscolaire, explique Mme Théberge. Sauver Félix-Antoine dans le journal Métro. À le voir courir, jouer, on ne croirait jamais que le petit Félix-Antoine est malade. Il est pourtant atteint du syndrome de Hunter, une maladie dégénérative très rare qui va progressivement affecter chaque partie de son corps. Pour tenter d'aider à trouver un traitement, ses parents se démènent afin de financer une équipe de chercheurs qui pourrait sauver leur fils. Pour l'instant, Félix-Antoine reçoit le seul médicament disponible qui ralentit la progression de la maladie sans toutefois pouvoir l'arrêter. Il se rend une fois par semaine à l'hôpital pour enfants de Montréal pour le recevoir par intraveineuse. Normalement, les enfants atteints du syndrome de Hunter évoluent presque normalement jusqu'à l'âge de 4 ans. Puis, ils perdent lentement leurs acquis, désapprennent à parler puis à déglutir. Autour de 16 à 20 ans, il meurt en général d'une défaillance cardiaque ou respiratoire, explique son père Jean-François Aublet. Une équipe de chercheurs de l'hôpital pour enfants Nationwide en Ohio, aux États-Unis, a développé une thérapie génétique qui pourrait changer du tout au tout le sort qui guette Félix-Antoine. Ils ont terminé les tests sur des animaux et doivent maintenant accueillir 2,5 millions pour lancer les essais cliniques sur des humains. Si ce traitement fonctionne, le jeune garçon pourrait se remettre à fabriquer l'enzyme manquante dans son système et donc guérir, même si les dommages déjà causés par la maladie seraient irréversibles. De là l'urgence de la situation, plus vite Félix-Antoine pourra recevoir la thérapie, plus il conservera d'acquis, souligne Mme Lacroix. Elle et son conjoint travaillent donc d'arrache-pied pour organiser des campagnes de financement avec la Fondation Isaac, une organisation lancée par la mère d'un enfant atteint du syndrome afin d'aider la recherche. Ils participeront avec une vingtaine d'autres coureurs à la classique verdunoise le 7 octobre pour amasser des fonds. Vêtus de leur T-shirt orange, ils parcourront le 5 ou le 10 km, puis feront une marche de 1 km avec Félix-Antoine, qui recevra une médaille spéciale. Pour faire un don, félixantoine.com. Alors, au bout du fil, Thomas Bastien, directeur de l'éducation et du mieux-être au Musée des beaux-arts de Montréal. Bonjour, M. Bastien.
Bonjour.
Alors, vous nous parlez d'une plateforme qui s'appelle Éducar. De quoi s'agit-il exactement?
Alors, Éducar, c'est une plateforme qui est destinée en fait aux enseignants du secondaire. C'est une plateforme interactive, gratuite, qui a été en fait bâtie au cours des 4 dernières années pour construire des ressources pédagogiques pour ces enseignants-là. Donc, c'est l'utilisation en fait d'œuvres d'art du Musée des Beaux-Arts qui ont inspiré 17 différentes thématiques. Et ces 17 différentes thématiques en fait font parler à travers justement les œuvres d'art de sujets tels que les mathématiques, les sciences, la littérature ou autres. Donc, c'est des outils en fait vraiment qui sont mis à disposition des enseignants du secondaire.
Mmh. Est-ce que c'est tout nouveau là, cette plateforme? Est-ce que le lancement a eu lieu récemment?
Exactement, ça a eu lieu le 6 novembre dernier.
Le 6 novembre?
Désolé, non, il y a une semaine et demie en fait, ça a été lancé de notre côté. Et ce qui était assez incroyable en fait, c'est que c'est une plateforme qui a été créée par des enseignants pour des enseignants.
Ah oui.
Donc, c'est une plateforme qui a été créée au cours des 4 dernières années. On a lancé 17 projets pilotes, 17 projets à travers les différentes régions du Québec, en compagnie en fait de différents enseignants en fait qui sont dans des matières très différentes les unes des autres.
Est-ce que c'est une plateforme qui est accessible à tous? Je pense entre autres aux jeunes non-voyants ou malentendants.
Oui, tout à fait. Alors, c'est une plateforme qui est plus mise en accès pour les personnes qui ont des déficiences auditives, je dirais, parce que on a différentes vidéos, bien sûr, qui sont mises à disposition, mais la plateforme est vraiment faite pour les enseignants du secondaire, en grande majorité.
D'accord.
La raison pour laquelle, en fait, c'est très intéressant, et puis je suis très content qu'on ait la chance de s'en parler, c'est qu'on a une des personnes, en fait, la plateforme fait interagir des experts, comme on les appelle, qui aiguillent les conversations des enseignants. Et ces experts-là, en fait, peuvent venir de différents milieux. Et justement, on a Véro Leduc, en fait, qui est la directrice générale du RECIS, qui, justement, a travaillé sur un projet du Bas-Saint-Laurent avec l'école secondaire Langevin.
Mmh, le RECIS, qui est le regroupement québécois pour l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes.
Tout à fait,
ouais.
Tout à fait. Et puis qui a travaillé en fait sur un projet, en fait qui nous a aidé à travailler sur un projet qui était sur la thématique des communications.
Mm-hmm.
Et c'est ça où c'est très intéressant, c'est qu'on sensibilise à travers la thématique des communications des jeunes de l'ensemble des régions du Québec sur la problématique en fait des personnes qui ont des problématiques d'audition, plus particulièrement.
Et Véronique Leduc parle entre autres d'œuvres d'Hélène Galloway-McNichol, qui était une peintre du début du 20e siècle, qui, elle, n'a pas eu accès à l'enseignement des langues, des signes.
Oui.
Alors, c'est une autre époque, mais en même temps, on en apprend plein de choses sur cette vidéo-là.
En fait, on en apprend plein de choses, et puis c'est un peu le rôle d'éducateur là-dessus, c'est que, imaginons que je suis un enseignant en secondaire, en mathématiques, et que je désire en fait de parler de proportions, par exemple. Je peux utiliser une œuvre d'art du musée pour sensibiliser mes élèves à ces thématiques de proportions, en parlant des plans, en partant de géométrie, en parlant de différentes choses qui se trouvent dans une œuvre d'art du musée. Dans le cas en fait de l'œuvre qui a été choisie par Madame Leduc, elle nous donne en fait vraiment son opinion sur la thématique des communications et puis sur cet empêchement qu'elle a eu à certains moments en relation avec cette œuvre-là. Et quand l'enseignant en fait utilise cette œuvre et la montre à ses élèves, il y a vraiment un message qui est très libérateur en fait, fois pour l'enseignant, mais aussi à la fois pour l'élève. Premièrement, en fait, ça montre à l'enseignant qu'il peut utiliser des œuvres d'art du musée sans être un expert en art.
Mmh.
Ça, c'est une chose fantastique. Et deuxièmement, ça montre aux jeunes que, au-delà de la simple description d'une œuvre œuvre qu'on pourrait avoir en termes d'histoire de l'art, on peut aller beaucoup plus loin, en fait, à travers différentes thématiques. On peut parler d'écologie, on peut parler de violence à l'école, on peut parler de différentes problématiques qui sont en lien avec la rue. C'est fou, en fait.
C'est infini.
C'est infini. Oui, oui. C'est vraiment infini.
Et donc, pour revenir à Véro Leduc, qui parle de l'œuvre de Helen Galloway-McNichol, qui est une œuvre magnifique, qui s'appelle « À l'ombre de la tente ». Et c'est vrai, de la manière dont elle parle de cette œuvre, c'est tout à fait accessible, compréhensible. Et elle parle, vous disiez que le thème, c'est communiquer en ce qui la concerne, et elle parle d'une œuvre qui s'intitule « La tour de Babel », où justement, c'est pas nécessairement toujours facile de communiquer.
Oui, tout à fait. En fait, c'est
l'œuvre de Ben Reeves.
Exactement. Et puis, en fait, c'est la raison pour laquelle elle n'est pas seule, en fait, en experte sur la thématique communiquée. On a également un grand spécialiste des médias, un animateur, mais on a aussi notre ami, en fait, qui parle, en fait, de la violence à l'école. Mm-hmm. Et justement, en fait, du fait que d'empêcher de communiquer quelqu'un ou alors de le forcer à communiquer sur des choses sur lesquelles il ne veut pas communiquer, c'est aussi compliqué, c'est aussi grave, en fait. Donc, c'est très libérateur, cette thématique-là. C'est une très belle thématique. On est très fiers de celle-ci parce que ça nous permet vraiment, en fait, d'aller au cœur même, en fait, de certaines problématiques qui se trouvent au sein des écoles.
Alors, donc, cette plateforme pédagogique peut intéresser tout le monde, finalement. On peut y aller, on peut aller faire un tour educart.ca. J'y suis allée et franchement, c'est passionnant. C'est difficile d'en sortir parce que ça nous amène, pas un labyrinthe, mais un beau labyrinthe, finalement. Une porte qui s'ouvre, une autre porte qui s'ouvre et c'est extrêmement enrichissant.
Oui, et puis en fait, c'est d'autant plus enrichissant que vous allez en parler à des enseignants, vous allez en parler à des parents d'élèves, vous allez en parler, et puis c'est grâce à ces informations qui vont remonter qu'au fur et à mesure, on va répandre cet outil-là à la hauteur du Québec. C'est vraiment notre objectif pour cette année qui s'en vient, c'est de faire en sorte que l'ensemble des enseignants du Québec puissent l'utiliser et aborder des thématiques très sensibles au sein des écoles à travers des œuvres d'art qui sont très douces, en fait, par l'approche.
C'est très prometteur. Educart.ca, Thomas Bastien, directeur de l'éducation. Éducation du mieux-être au Musée des beaux-arts de Montréal. Merci pour cette entrevue et pour ce beau projet.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Au revoir.
La Ressource lance sa campagne de financement, une nouvelle tirée du site de Radio-Canada. La Ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine se porte mieux. Un an après avoir été forcée de suspendre ses services dans certains secteurs en raison d'un manque de financement. La Ressource a lancé lundi matin sa campagne de financement automnale et espère amasser environ 25 000 $ au cours des prochains mois pour financer ses activités. Un montant de 51 000 $ a également été amassé cet été dans le cadre du défi Vélo La Coop, ce qui a permis de bonifier l'offre de services de la Ressource dans la région. Sa directrice Thérèse Sirois explique que tous les dollars amassés sont nécessaires puisque son organisme vient en aide à plus de 1 200 personnes chaque année et qu'il est de plus en plus sollicité. L'an dernier, malgré notre année difficile, c'est une année où on a répondu à encore plus de demandes. On a dû diminuer le montant qu'on accordait aux gens, mais on a répondu à plus de demandes que d'habitude, ça n'arrête pas d'augmenter. Selon Thérèse Sirois, le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent envisage d'augmenter le financement de base offert à la Ressource. Le CI3S fournit actuellement 35 000 $ sur un budget total de plus de 400 000 $. Un voleur récidiviste, Marc-André Gamache, a été condamné à 15 mois de prison pour avoir dérobé les deux vélos adaptés de la cycliste paralympique Marie-Ève Croteau quelques semaines avant les Jeux de Rio. Dans la nuit du 18 juillet 2016, Gamache, 28 ans, est entré dans le garage souterrain de l'immeuble de l'athlète sur le boulevard Henri Bourassa à Charlebourg et a forcé le cadenas pour voler les deux bicyclettes d'une valeur totale de 20 000 $. L'un des deux vélos a été retrouvé quelques jours après le larcin. L'autre est toujours dans la brume, pour reprendre l'expression évasive de Gamache. L'homme d'affaires et cycliste Louis Garneau avait offert un vélo à Marie-Ève Croteau qui avait pu quitter pour le Brésil tel que prévu. En plaidant coupable, le voleur a dit à la juge Marie-Claude Gilbert qu'il n'avait jamais réalisé qu'il subtilisait des vélos adaptés de grande valeur. Les deux vélos avaient deux roues, mais aucune pédale. Précisons que Gamache était aussi en libération conditionnelle et sous le coup d'un couvre-feu. Marc-André Gamache a poursuivi en lançant qu'il volait parce qu'il ne réussissait pas à trouver d'emploi avec sa longue feuille de route judiciaire. La juge Marie-Claude Gilbert a rétorqué qu'il n'en tenait qu'à lui de se prendre en main, régler ses problèmes de toxicomanie et écouter les conseils reçus. Maintenant, je m'entretiens avec Jérôme Bobin, directeur de Handicap International Canada. Bonjour, Monsieur Bobin.
Bonjour, Hélène.
Alors, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que Handicap International Canada?
Alors, Handicap International Canada, comme certains de nos auditeurs le savent, c'est une organisation humanitaire internationale dont le métier est en fait de venir en accompagnement, en soutien des personnes handicapées et des populations les plus vulnérables dans les pays en développement et les pays en crise. Mmh. Et puis, on a une particularité, c'est qu'on mène un combat depuis de nombreuses années, hein, plus de 35 ans, contre les armes explosives, en fait, contre les mines antipersonnelles, les sous-munitions et tout type d'armes qui vont venir amputer bien souvent des personnes.
Alors, vous êtes le chapitre canadien de la Fédération Handicap International.
Voilà, tout à fait. On est une grosse organisation et puis cette grosse organisation-là, elle s'appuie sur 8 chapitres, 2 en Amérique du Nord et puis 6 en Europe. Et ces 8 chapitres travaillent tous ensemble pour aller dans le même sens au service des personnes en situation de handicap.
Oui, je sais que vous êtes un habitué de Canal M et les gens vous connaissent. D'ailleurs, Jean-Sébastien, à la mise en onde, m'a parlé de vous, me disant que vous étiez un invité de marque, de grand choix. Alors, qu'est-ce que l'opération Stop aux bombes, M. Bobin?
Alors justement, comme je viens de vous le dire, on a une intention particulière depuis des décennies sur les armes explosives et malheureusement, on est encore confronté aujourd'hui à l'échelle internationale à énormément d'usages d'armes explosives qui font peser une forte menace sur les populations. L'opération Stop aux bombes, c'est une campagne qu'on veut assez étroite, qui a commencé mi-septembre et qui va terminer mi-octobre, et qui vise à mobiliser le public pour demander aux États membres des Nations Unies d'arrêter d'utiliser des armes explosives en zone peuplée.
Et de quel conflit on parle ici?
Alors malheureusement, il y en a un que vous connaissez très bien, qu'on connaît tous, c'est le conflit en Syrie. Toute la crise syrienne aujourd'hui génère énormément d'usages de bombardements et donc de personnes à la fois victimes, donc qui vont exploser, mais aussi qui vont fuir la Syrie et qui vont essayer de se retrouver soit dans les pays avoisinants, soit plus loin, et on le sait très bien, ici on en reçoit au Canada, au Québec, on en reçoit dans différents pays de la planète. Donc la crise syrienne forcément, mais il y a aussi en Irak, il y a aussi la bande de Gaza, il y a l'Ukraine, il y a la Libye, l'Afghanistan toujours, la Thaïlande, la Colombie aussi on en parle, il y a l'usage d'armes explosives en Colombie qui font peser une menace sur des victimes, sur des innocents, pardon.
Est-ce que vous sentez que les Canadiens se sentent concernés par ces conflits qui sont extrêmement graves et cruels et catastrophiques, mais qui ne se passent pas, si je puis dire, chez nous, en Amérique du Nord?
Ben, c'est difficile, en effet, de se sentir concerné quand ça arrive très loin. Après, je pense que personne, à part ceux qui travaillent dans le domaine comme Handicap International, personne ne voit vraiment l'impact de l'usage de ces armes. Imaginez par exemple que si on vivait actuellement ce que les gens vivent en Syrie avec des bombardements sur Montréal, ça veut dire que les hôpitaux pourraient être détruits, ça veut dire que les canalisations d'eau pourraient être détruites, l'électricité serait détruite aussi. Bien sûr, les blessures humaines, mais les blessures psychologiques, les gens qui fuiraient toute la ville de Montréal pour se retrouver où? Peut-être à Ottawa, mais Ottawa serait la prochaine à être bombardée, donc pour aller où? Aux États-Unis. Imaginez, quand on comprend ce que vivent ces gens qui vivent sous les bombes et qui vivent sous la menace des bombes, c'est instantané, les gens se mobilisent pour ça.
Oui.
Et comme on ne vit pas ça ici au Canada, c'est un peu plus dur.
Alors, Handicap International Canada fait un travail aussi de conscientisation, de sensibilisation.
Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'en ce moment, la campagne dont on parle, Stop aux bombes, elle s'appuie beaucoup sur les réseaux sociaux. On sait bien que les réseaux sociaux, maintenant, sont pas le nouveau terrain de jeu, mais en tous les cas, la place publique sur laquelle se manifestent énormément de choses.
Oui, donc, pour le meilleur et pour le pire.
Le meilleur et pour le pire.
Dans votre cas, c'est pour le meilleur.
Voilà, gardons que de temps en temps, le meilleur arrive. Donc, cette mobilisation-là par les réseaux sociaux pour demander aux gens déjà de manifester, dans un premier temps de manifester leur refus de ces bombardements. Nous, après, notre rôle en tant qu'organisation de la société civile, c'est de prendre cette mobilisation et de l'amener aux dirigeants, que ce soit les dirigeants canadiens et, comme je vous l'ai dit plus tôt, aux dirigeants des Nations Unies, parce que c'est un sujet qui dépasse largement le simple cadre canadien et que nous, en tant qu'organisation internationale, on veut porter au plus haut point.
Et on peut signer une pétition.
Alors voilà, la campagne, elle se traduit, soit vous, vous postez un égo-portrait avec un stop sur la main, soit vous signez une pétition, soit vous avez aussi des contacts avec vos propres députés locaux et vous pouvez leur passer la campagne, les informer de la campagne, c'est toujours intéressant. Tout ce qui va permettre de faire passer le message, et c'est ce que vous faites aujourd'hui au Par Actualité, c'est quelque chose qui va nourrir la campagne pour faire en sorte ben, finalement qu'il y ait moins d'individus qui subissent les effets de ces bombardements.
Alors, on peut aller directement à stopaubombes.ca?
Voilà, www.stop-o-bombe avec un s.ca, où vous tapez sur Google Stop aux bombes Canada et puis vous trouverez bien aussi la réponse.
Oui, et allez faire aussi un tour à handicap-international.ca/fr pour avoir encore plus d'informations sur Handicap International Canada ou Handicap International.
Sur Handicap International, sur ce sujet-là, puis sur tous les autres sujets, une fois de plus, on travaille énormément dans d'autres domaines et pour l'accompagnement et le développement des personnes en situation de handicap à travers la planète. Donc, il y a d'autres sujets aussi que les bombes.
Jérôme Bobin, merci et à la prochaine.
Merci Hélène.
Bonne chance.
Au revoir.
Les Jeux Invictus de 2017 à Toronto se sont terminés samedi soir par une cérémonie de clôture spectaculaire qui a permis aux concurrents, à leurs familles et à des milliers de spectateurs de célébrer la fin d'une semaine de compétition inspirante. Pendant son allocution de clôture, le prince Harry a félicité la ville haute. Vous avez présenté les plus imposants Jeux Invictus à ce jour avec une atmosphère des plus incroyables tout en faisant en sorte que les concurrents aient le sentiment d'être des vedettes comme il se doit. La troisième édition de cette compétition multisport pour soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés a accueilli plus de 550 concurrents provenant de 17 nations qui ont concouru dans 12 sports adaptés durant 8 jours de compétition transformatrice. Les Jeux Invictus ont aussi mis en valeur ce qui se fait de mieux en matière d'hospitalité à Toronto. Nous apprécions grandement l'accueil qui nous a été fait ici au Canada. Je suis surprise par la démonstration de patriotisme et de soutien envers le personnel militaire blessé. C'est très touchant, déclarait Anne Gruvarche, épouse d'Olivier Boutier, concurrent d'Équipe France. Pour Olivier, de finir sa carrière militaire aux Jeux Invictus, c'est fantastique. Pour son rôle, c'est encore mieux. Tout comme les concurrents qui ont repoussé leurs limites, la troisième édition des Jeux Invictus a battu des records. Le plus grand nombre de nations participantes et de concurrents, le plus important engagement jamais inscrit en matière de médias sociaux, un nombre inégalé de spectateurs et même des températures records. Le premier ministre Justin Trudeau a fait hier la déclaration suivante pour souligner la Journée nationale des aînés. C'est sur le site newswire.ca. En cette Journée nationale des aînés, nous célébrons les aînés à travers le Canada et nous honorons les contributions importantes qu'ils apportent à notre pays. Les aînés du Canada occupent une place particulière et précieuse au sein de nos familles, de nos milieux de travail et de nos communautés. Notre gouvernement reconnaît le rôle vital que jouent les aînés dans le bien-être de l'ensemble de notre pays. Nous travaillons fort pour qu'ils aient le soutien dont ils ont besoin ainsi que la retraite sûre et digne qu'ils méritent. Nous avons renforcé le régime de pension du Canada et augmenté le supplément du revenu garanti pour les aînés à faible revenu vivant seuls. Nous avons également ramené l'âge de l'admissibilité à la sécurité de la vieillesse de 67 à 65 ans. Nous avons aussi créé le Crédit canadien pour aidants naturels afin de mieux soutenir ceux qui en ont le plus besoin et d'aider les familles à prendre soin de leurs proches. Nous faisons également des investissements dans les soins à domicile et dans le logement pour aînés. Les aînés nous transmettent des récits qui nous aident à comprendre notre identité en tant que pays. Ils apportent des connaissances qui nous aident à mieux contribuer à nos communautés. En tant que travailleurs bénévoles ou membres de notre famille et de notre communauté, ils aident à bâtir un Canada plus fort et un monde meilleur. Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à rendre hommage à un aîné dans leur vie, que ce soit un parent, un grand-parent ou un mentor, ainsi qu'à démontrer leur reconnaissance pour tout ce que ces personnes apportent à la société canadienne. Haut de 50 mètres, l'Arc de Triomphe de Paris n'est aujourd'hui pas entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Malgré l'ascenseur, il reste 40 marches d'escalier à gravir pour profiter de la magnifique vue qu'il offre sur la capitale. Afin de permettre l'accès de tous à la terrasse, le Centre des monuments nationaux, CMN, a annoncé mardi le lancement d'une campagne de travaux avec l'installation d'un élévateur et d'un cheminement spécifique en terrasse. Le chantier pour lequel le CMN, donc le Centre des monuments nationaux, investit 4,6 millions d'euros, doit s'achever en juin 2018. Ne manquez pas le brunch conférence sur les élections municipales le mardi 3 octobre. Le RAM débute en force la nouvelle saison de brunch conférence le mardi 3 octobre, demain, avec un sujet d'actualité alors que les élections municipales arrivent à grands pas. On est dans les élections municipales. Si le municipal ne suscite pas autant d'intérêt auprès de la population et des médias que les autres paliers de gouvernement, il n'en demeure pas moins que ce sont les décisions prises par vos élus municipaux qui ont le plus d'impact sur votre vie au quotidien. Le RAM vous offre l'occasion d'en apprendre plus sur ce sujet et de poser vos questions dans le cadre de ce brunch conférence. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, donc demain, de 10h à midi, coût 9 $, animé par Patrick Sigana, organisateur politique et ex-directeur de Projet Montréal. Pour vous inscrire, vous contactez Anna au 514-277-4401, 514-277-4401, poste 111, ou par courriel à administration@ram.org. Et le chien d'assistance Carigno, détecteur des baisses de glycémie, appartient à la fondation Corazon et non à son maître diabétique qui le retenait depuis 3 ans. La juge Chantal Gosselin de la Cour du Québec vient d'ordonner à un homme de Québec, Jean-Pierre Gendreau, de remettre le chien de race épagneul et cocker anglais à son légitime propriétaire, la fondation Corazon. Merci d'avoir été à l'écoute des Paractualités de ce 2 octobre 2017. Merci à mes invités, Thomas Bastien et Jérôme Bobin. Et merci aussi à mon équipe, à la recherche Anne-Laure Janson et à la mise en onde Jean-Sébastien Laliberté. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une très belle journée et j'espère vous retrouver demain.